C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
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 Bonsoir. C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi.
Il est 19h et des brouettes, et c'est l'heure du Canu Info. Ce soir, le monde entier en parle, alors nous aussi on va en parler. La loi sur la sécurité globale est devant l'Assemblée, mais enfin nous on va pas s'y attarder. On va en profiter aussi pour faire un petit détour par le livre blanc sur la sécurité, un machin qui a été rendu public lundi. Après, on aura une interview qu'on a chopée sur le site Radio Parleur, une interview de quelqu'un d'un centre social qui a eu l'idée qui pouvait paraître, ma foi, pas plus mauvaise que ça, d'inviter une secrétaire d'État à discuter avec des jeunes de son centre social. Mais alors, ça s'est pas très bien passé, on aura le détail. Et puis, les médias américains pensent que la France est un pays islamophobe et raciste. Mais heureusement, Macron a pris son téléphone pour leur expliquer la vie. Après, on aura un truc sur le chômage partiel dans la grande distribution. Puis, une lecture de la lettre que Kamel Daoudi a envoyée à lundi matin du fond de sa cellule de Corba. Enfin, des histoires, ma foi, on dirait qu'on se renouvelle pas beaucoup, mais c'est plutôt le monde qui se renouvelle pas beaucoup, de violences policières et dans des camps de migrants à Calais et en Seine-Saint-Denis. Et puis on terminera par un petit agenda.
Canu Info. Du mercredi.
Et allez, bim bim bim, ça s'arrête plus, les textes, les lois, les rapports tombent dru pour renforcer la toute-puissance de la police en France. Et alors, Covid ou pas, c'est un truc que les gouvernements font généralement quand ils ont une politique antisociale et qui savent qu'ils doivent compter absolument sur leur police pour les protéger contre le mécontentement populaire. Alors, en septembre, on a eu le schéma national de maintien de l'ordre, comment la police doit gérer les manifs, et c'était déjà pas triste. Aujourd'hui, à l'Assemblée, les députés sont en train de discuter cette fameuse loi sur la sécurité globale qui va accorder aux flics un droit exclusif à la production d'images sur leur action. Bon, je vous préviens tout de suite que je ne vais pas revenir ici sur le détail de cette loi. Si vraiment vous avez vécu les dernières semaines dans une grotte, il va vous suffire de passer 2 minutes sur Internet pour comprendre pourquoi est-ce que c'est une loi qui est totalement, absolument, entièrement craignos. Mais plus discrètement, lundi, le livre blanc sur la sécurité intérieure a été rendu public et il vaut aussi le coup d'œil pour compléter une vision globale de ce qui est en train de se passer. Ce document de 322 pages, qui a nécessité un an de travail, rassemble près de 200 propositions pour inspirer l'action du ministre de l'Intérieur pour les prochaines années, selon Gérald Darmanin. Il y est beaucoup question, là encore, d'images et de communication. Alors, les auteurs de ce livre blanc, c'est des cadres du ministère de l'Intérieur. Ils partent d'un constat. Les agressions contre les policiers, gendarmes et sapeurs-pompiers ont fortement augmenté depuis 2019. Ce phénomène, disent-ils, dont l'ampleur et l'intensité sont inédits dans notre histoire récente, est une des démonstrations de la défiance développée par une partie des Français à l'égard des forces de sécurité. Ces forces de sécurité avaient été acclamées en 2015 après les attentats, mais ces dernières années, en fait 5 ans plus tard, ces mêmes forces de sécurité font l'objet d'un rejet d'une frange non négligeable de la population. Bah dis donc, on pourrait dire que ces gens-là sont attentifs. Mais d'où diable pourrait donc provenir un tel rejet ? Ça, c'est incroyable quand même. L'article de 20 minutes qui parle du truc expose et commente l'analyse des auteurs du livre blanc à peu près aussi bien que je pourrais le faire moi-même. Cette défiance s'expliquerait surtout, selon les auteurs du livre blanc, par la méconnaissance de leur mission par la population. C'est ce que je lis dans l'article de 20 minutes. En substance, les Français sont mal informés et ne retiennent que les aspects négatifs des forces de l'ordre, relatés à travers les médias et les réseaux sociaux, ces derniers étant vecteurs de fausses nouvelles et d'informations manipulées, c'est ce qu'on lit dans le livre blanc. Rien à voir donc, poursuit le journaleux de 20 minutes, avec les affaires de violences policières qui ont défrayé la chronique ces dernières années, ni avec les contrôles aux faciès régulièrement dénoncés par les associations ou les institutions comme le Défenseur des droits. Ces sujets ne sont tout simplement pas évoqués dans le livre blanc. Eh ben oui, c'est 20 minutes qui écrit ça, je ne fais que lire ce qu'ils écrivent. Alors tout le problème, en fait, c'est bien celui de la communication du ministère de l'Intérieur. Cette communication devrait, pour l'image des forces de police, devrait faire connaître et valoriser l'action des forces de l'ordre pour ne pas laisser le champ libre aux mises en cause dont elles font de plus en plus systématiquement l'objet. Attendez, c'est pas fini. Le ministère de l'Intérieur est donc prié de réorganiser sa communication, notamment en se dotant, ouvrez les guillemets parce que c'est toujours dans un extrait du livre blanc, d'un maillage et d'une chaîne de communication adaptée aux enjeux de la sécurité intérieure, et blablabla, avec des communicants et des community managers. Ces derniers, les communicants, les community managers, devront développer leur présence sur les réseaux sociaux afin de freiner au plus vite la propagation de fausses nouvelles. Waouh ! Mais c'est que quand on connaît le rapport des ministres de l'Intérieur de ces dernières années, et quand même un paquet d'années, hein, ça remonte pas à Macron, le rapport des ministres de l'Intérieur à la vérité, quand on les entend par exemple prétendre les uns après les autres, contre toute évidence, contre toutes les vidéos qu'on leur met sous les yeux, et qui jusqu'à maintenant ont le droit de circuler, prétendre tout le temps, prétendre systématiquement que chaque violence policière est légitime, ou encore que la police française n'est pas raciste, on voit à peu près ce que peut vouloir dire freiner la propagation de fausses nouvelles pour un ministre de l'Intérieur. Ça veut dire exactement donner une grande résonance à leurs mensonges. Ni plus ni moins. D'un côté, on a donc cette loi sur la sécurité intérieure qui cherche à gêner le plus possible une information indépendante. En tout cas, en empêchant l'épreuve par l'image d'être rendue publique. D'un autre côté, le ministère de l'Intérieur planifie sa propagande. Quand la seule information autorisée est celle qui est favorable à l'État, c'est toujours plus difficile de s'empêcher d'atteindre le point Godwin, pour moi en tout cas. Mais je vais tenir bon, je vais même pas le dire Adolf Hitler, je vais juste mentionner par exemple le nom de Viktor Orban, le dirigeant de la Hongrie. Alors, petit retour en arrière, on se rappelle qu'au début de son mandat, Macron s'était un peu fait le héros de la démocratie libérale contre ce qu'il avait appelé les démocraties illibérales. En clair, les pays avec une constitution formellement démocratique, mais avec des dirigeants ultra-autoritaires qui piétinent le droit de la presse, qui piétinent le rôle des juges, la liberté d'expression, non pas, je parle pas de la liberté d'expression pour les insultes contre les musulmans, mais même une liberté d'expression pour les critiques au gouvernement, en gros ce qu'on appelle l'état de droit. Là, ces derniers jours, il a été question du côté de l'Union européenne de conditionner l'accès aux aides financières du plan de relance post-Covid au respect de l'état de droit. La Hongrie et la Pologne ont directement mis un veto, bien sûr, parce que ça les forcerait soit à renoncer au pognon, ou soit à tout changer dans leur manière de gouverner. Alors c'est normal, on s'y attend, c'est des pays vraiment pas démocratiques, c'est des démocratures, comme on dit. La France, par contre, elle a une vieille tradition démocratique. Qui pourrait la soupçonner de dérive autoritariste ? Hein ? Qui ? Qui donc, nous, à Radio Canu, bon, c'est vrai que ça peut arriver, mais par exemple, on n'est pas les seuls, puisque les rapporteurs du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, eh ben, eux aussi, ils ont ce genre de soupçons. Non seulement, selon eux, le texte qui arrivait hier à la discussion à l'Assemblée nationale, donc la loi sur la sécurité globale, non seulement cette loi porte une atteinte disproportionnée aux libertés fondamentales, mais disent-ils encore, dans le contexte général de la lutte antiterroriste, cette loi est susceptible de porter préjudice à l'état de droit. Ah ouais ? Non. Alors, nous, c'est vrai que l'état de droit, on n'est pas certain que ça nous fasse toujours tellement triper, mais, pour être vraiment honnête, si on n'aime pas trop notre président et son gouvernement, on apprécie quand même encore les quelques petits trucs qui restent et qui le différencient de Orban, Bolsonaro ou Trump. Le vrai problème, c'est qu'il faut de plus en plus avoir recours à une loupe pour trouver ces différences.
Radio Canu 102.2.
La plus rebelle des radios.
Canu Info.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Un débat de jeunes sur la laïcité à Poitiers aura réussi à créer une inspection du gouvernement et des pressions de partout. Comme chaque année, la Fédération des centres sociaux a organisé avec ces jeunes une rencontre nationale. Pendant plusieurs jours, ils ont réfléchi, discuté et débattu sur le thème des religions et de la laïcité. Puis le jeudi 22 octobre, c'est l'heure de la restitution de leur travail. Réflexion sur la loi de 2004 interdisant le port des signes religieux, violences policières, et ce n'était pas au goût de leur invité, la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de l'engagement, Sarah El Haïry. Au final, pas de discussion, une Marseillaise chantée avec peu de cœur, et quelques jours après, c'est l'inspection qui tombe, mandatée donc par la secrétaire. Est-ce une réaction aux propositions des adolescents et adolescentes qui n'ont pas plu ? La laïcité est-elle une question trop tendue pour être débattue en France ? Au-delà de la réaction du gouvernement, le sujet a l'air bâillonné, les élus ne veulent pas communiquer, les jeunes, les animateurs et animatrices sont victimes de commentaires accusateurs sur les réseaux sociaux, l'expression qui tient tant à cœur à l'éducation populaire a l'air mise à mal. Retour sur les événements avec Tariq Touaria, président de la Fédération des centres sociaux de France.
Donc pendant cette rencontre, ils ont présenté leurs réflexions et puis leurs propositions sur comment ils vivaient leur religion dans la société française aujourd'hui et plus globalement aussi un certain nombre de discriminations vécues par rapport à la police, notamment. On fait un travail d'éducation populaire, donc les gens partent de ce qu'ils vivent, de ce qu'ils pensent, ils échangent collectivement, on donne des apports aussi de toutes sortes, qui peuvent être pièces de théâtre ou des discussions, des projections, et les jeunes en l'occurrence cheminent. Voilà, il s'est passé un temps hyper bien organisé par les jeunes, c'est les jeunes eux-mêmes qui présentaient, et puis ils ont eu en face une secrétaire d'État qui ne les écoutait pas. Voilà, une incommunicabilité totale entre des jeunes qui parlaient du réel, qui avaient pendant 2 jours discuté de manière apaisée de sujets compliqués, surtout vu l'actualité, et ils ont eu en face d'eux une secrétaire d'État crispée sur un discours un peu incantatoire, un peu désincarné.
Il n'y a pas eu le dialogue attendu ?
Il n'y a pas eu de dialogue attendu. Ils étaient ravis de rencontrer une jeune secrétaire d'État de 31 ans et de leur expliquer où ils en étaient de leur cheminement. Ils étaient prêts à entendre des désaccords et à en discuter. Et c'est pas ça qui s'est passé. Il s'est passé des incantations à les grandes valeurs de la République, à l'appel à la loi de la laïcité, à chanter la Marseillaise, mais pas un dialogue. Quand on est là pour dialoguer et qu'il y a quelqu'un qui demande à chanter la Marseillaise, c'est pas évident qu'elle soit reprise en chœur. C'est sûr qu'ils sont partis écœurés. Alors, ça apprend des choses. Hein. J'ai discuté avec un certain nombre à l'issue de tout ça. Et c'est ce que je disais. Par ce refus de dialogue, vous avez appris beaucoup de choses aussi. Ils cheminent, ils ont envie de faire d'autres choses, de pousser le travail qu'ils ont fait, et on les accompagnera pour ça. Donc, à l'issue de tout ça, la secrétaire d'État est repartie furieuse. Et quelques jours après, on a reçu l'annonce qu'elle avait mandaté une inspection en nous précisant que c'était dans le cadre pour comprendre les conditions d'organisation de cet événement de Poitiers, plus globalement, notre organisation à la Fédération nationale.
Mais de quoi on vous soupçonne, en fait, précisément ?
Je ne sais pas trop de quoi elle nous soupçonne qu'il y ait les jeunes n'aient pas eu les propositions qu'elles auraient voulu qu'ils aient osé questionner la loi de 2004 sur l'interdiction du signe religieux à l'école, au lycée. C'est une proposition parmi d'autres des jeunes. Il aurait fallu qu'on fasse tout pour que les jeunes la produisent pas. C'est peut-être ça. Nous, on comprend pas. Nous, on fait notre travail, on accompagne des jeunes dans une réflexion, dans un chemin, et pour ça, on est inspecté.
Et quelle a été votre réaction, vous, quand vous avez reçu l'annonce de cette inspection ?
Abasourdi, pas étonné, choqué, confiant, tout ça à la fois. Enfin, l'attitude crispée a nous laissé présager qu'il y aurait un retour de bâton. On n'a absolument rien à se reprocher. La laïcité, c'est quelque chose qu'on respecte au plus haut point. Donc voilà, on est serein sur cette inspection. Mais c'est choquant dans la forme et dans le fond. Premier réflexe, c'est aussi de moi, en tant que président, de dire à tous les gens qui ont travaillé, on peut être fier du boulot qu'on a fait et on va le revendiquer.
Est-ce que cette situation, elle montre aujourd'hui une crispation autour des sujets de religion, de laïcité ?
Ça montre une crispation, parce qu'on nie pas les difficultés qu'il peut y avoir. Justement, enfin, nous, centres sociaux, on est confrontés à des frictions sur la laïcité, sur la mixité, etc. On est dans des territoires où parfois il y a des gens qui voudraient nous empêcher. Nous, dans nos façons de faire, on défend au quotidien cette laïcité. C'est pas en crispant les choses qu'on règle les problèmes, c'est au contraire en considérant quiconque comme étant capable de penser, de réfléchir, de discuter et de se confronter. La République, c'est pas le consensus, le faire bloc, c'est pas tout le monde pense la même chose, c'est pouvoir questionner la loi de 2004 sur le port d'un signe religieux, c'est pouvoir discuter de la nature guerrière de la Marseillaise et discuter de tout un tas d'autres choses. On claque la porte aux jeunes, on claque la porte à nos façons de faire. Est-ce que c'est ces façons de procéder qui vont être à la hauteur des difficultés actuelles, non, je crois pas, des ruptures, de tout ce qui se passe. Je suis pas sûr que ce soit la bonne forme.
Justement, la secrétaire d'État Sarah El-Haïry dit que ces jeunes n'étaient pas représentatifs. Justement, qui sont ces 130 jeunes qui étaient présents ?
Je sais pas ce que ça veut dire. Nous, c'est les jeunes avec qui on travaille, qui pensent des choses, qui ont envie de changer les choses, qui sont complètement dans la République, alors que pour certains d'entre eux, justement, elle les discrimine. C'est des jeunes dans des quartiers populaires de ville, dans des quartiers périurbains, en ruralité. C'est des jeunes qui se retrouvent dans un centre social pour faire diverses actions, pour porter des projets collectivement, pour partir en vacances ensemble et qui font des opérations d'autofinancement, qui font des actions de solidarité sur leur territoire, qui font plein de choses ensemble au quotidien dans leur centre social. Et puis, une fois par an, ils se retrouvent une bonne centaine pour travailler une question. Sur leur temps de vacances, ils viennent 4 jours réfléchir, discuter. C'est des jeunes. Moi, je suis bénévole. Je suis pas là pour ça, je suis pas là pour me bagarrer sur ces questions-là, je suis là pour que justement on fasse avancer les choses dans nos territoires, dans la société française, pour que le vivre ensemble, le faire ensemble se développe, que à travers le faire ensemble les frictions de la société s'adoucissent, et pendant que je fais ça, pendant qu'on s'occupe de l'inspection, on fait pas autre chose, quoi. Donc c'est bien dommage, surtout que la période, elle est compliquée, hein. Elle est compliquée économiquement, socialement, moralement, politiquement, donc on aurait autre chose à faire, franchement.
Radio Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
Canu Info.
La France est un pays islamophobe et raciste. Alors, c'est pas moi qui le dis. Enfin, pas seulement moi. Enfin, aujourd'hui, il y a d'autres gens que moi qui le disent. C'est aussi un certain nombre de titres de la presse mainstream américaine. Et ça ne plaît pas du tout à Emmanuel Macron. Alors, il réagit, ma foi, comme un Macron. Hein. Quand les pays musulmans disent ça, quand les ricains disent ça, quand finalement une bonne partie de la planète pense ça, Macron ne passe pas une seconde à se demander s'il aurait des questions à se poser sur son pays. Ah oui, son pays perso, hein, son pays à lui, j'y reviendrai. Il leur explique la vie et pourquoi sa France ne se trompe jamais, lui ne se trompe jamais. Et si le monde entier pense qu'il se trompe, c'est que le monde entier n'a rien compris. Alors, avec la presse américaine, ça a commencé par un article dans le Financial Times intitulé « La guerre de Macron contre le séparatisme islamique ne fait que diviser davantage la France ». Ouh là là, il a mal pris ça, Macron. Alors ça, ça lui a pas plu du tout. Alors, son bureau a téléphoné au journal en argumentant une histoire de faute de traduction puisque Macron ne parlait pas de séparatisme islamique, mais de séparatisme islamiste. Bon, une erreur de traduction qui aurait pu être corrigée en modifiant quelques lettres à l'intérieur d'un mot, mais c'est finalement pas du tout comme ça que ça s'est passé. L'article a été retiré du site internet, et c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du journal, et à la place, on trouve maintenant une lettre de Macron qui attaque l'article retiré. Alors, c'est vrai que la France est, on le sait, la patrie de la liberté d'expression. Mais c'est quand même une liberté d'expression un peu particulière puisque depuis plus de 5 ans maintenant, le sens français de liberté d'expression, c'est bien liberté et même encouragement à insulter la religion majoritaire chez les pauvres de ce pays. Et certainement pas protection des opinions divergentes de celles du pouvoir. Donc, pas de souci pour que le président de la République fasse remplacer un article critique par une lettre de sa main, ma foi. Malheureusement pour notre beau pays, enfin le pays de notre président bien-aimé, d'autres journaux ricains ont emboîté le pas au Financial Times. Un article intitulé « Plutôt que de combattre le racisme systémique, la France veut réformer l'islam » est paru dans le Washington Post et il y énonce quelques faits qu'on lit rarement dans la presse francophone. Par exemple, que la laïcité du début du XXe siècle était très différente de la laïcité du début du XXIe siècle. Au début du XXe siècle, la France était majoritairement catho, et quand la loi sur la laïcité a été mise en place, elle visait quand même surtout à protéger les croyantes et les croyants des religions minoritaires, à l'époque le judaïsme et le protestantisme. Au XXIe siècle, la laïcité sert surtout à opprimer une religion minoritaire, l'islam. Le journaliste du Washington Post met ce changement sur le compte de l'humiliation subie par la France lors de la guerre d'Algérie. Bon, pour le reste, l'article fait une analyse du racisme en France, contrôle aux faciès, relégation dans les banlieues, discrimination à l'embauche, etc. Tout ce dont on peut parler, nous, à longueur de Canu Info. La conclusion, c'est que tant de discrimination et d'humiliation finissent par créer la violence. Alors, l'article est très très long. Il est vraiment intéressant. Là, j'en fais un résumé très très simplifié. Si vous maîtrisez l'anglais, vous pouvez toujours aller jeter un coup d'œil. En tout cas, ça s'arrête pas là, la presse américaine qui parle de la France. Puisque le site d'info en ligne Politico sort après un article qui s'appelle « La dangereuse religion française de la laïcité ». Cet article-là est signé d'un Français, puisque c'est le directeur de l'EHESS, c'est pas n'importe qui. Et il explique, lui, que la laïcité était originellement ce principe de neutralité de l'État dans les affaires de religion, mais qu'il est devenu autre chose. Ouvrez les guillemets, la laïcité modérée qui a régné jusque dans les années 70 a été remplacée par quelque chose qui ressemble plus à une religion civile. C'est un système de croyance qui a ses propres prêtres, les ministres du gouvernement, son pape, le président de la République, ses prophètes, les intellectuels, et ses hérétiques. Toute personne qui appelle à une retenue dans l'attitude hostile contre l'islam est rejetée et décrite comme islamo-gauchiste. Le gars continue en parlant des intellectuels français qui, ouvrez les guillemets, ont défendu de manière univoque le droit à la liberté d'expression pour le gouvernement français, fermez les guillemets. Et il parle donc d'injonction à blasphémer l'islam, et il conclut comme ça. Le résultat de ce cycle infernal, provocation contre provocation, voilà une société qui descend aux enfers. Avec la radicalisation de la laïcité française, le nombre d'attaques djihadistes s'est multiplié dans le pays. Alors là, Macron, il n'a pas aimé du tout. Lui, qui est capable d'aller expliquer aux musulmans du monde entier comment ils devraient aménager leur religion et en faire un islam des Lumières, lui, le plus grand donneur de leçons de la planète, finalement, n'aime pas du tout que des journaux étrangers, et pire, des journaux d'un pays grand et puissant et occidental, que ces journaux viennent lui rappeler une ou deux évidences. Alors, il a pris son téléphone. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé le correspondant à Paris du New York Times pour, ma foi, lui faire la leçon. Alors ce gars du New York Times a eu une longue conversation avec notre président qui lui a expliqué que les Américains comprennent rien, que son pays, à lui, la France, c'est bien trop subtil et malin pour des sortes de cow-boys là qui, du coup, feraient mieux de mouler ou alors de demander au président du DPI la matière de leurs articles. Bref, le correspondant a pondu un article et lui, il a eu la gentillesse de le traduire en français. Ça va m'éviter de faire moi-même des traductions, parfois peut-être un petit peu aléatoires, vu mon niveau d'anglais. Et l'article commence comme ça. Le président a quelques comptes à régler avec les médias américains, au sujet de notre biais, notre obsession du racisme, nos points de vue sur le terrorisme et notre réticence à exprimer notre solidarité, même un instant avec sa République assiégée. Alors, sa République, oui, c'est bien ça qui est écrit, et c'est pas un hasard. Petite parenthèse, dans les indices inquiétants un peu sur Macron et sur cette dérive autoritaire dont on parle un petit peu semaine après semaine, il y a de plus en plus, dans sa manière de s'exprimer, des « je », des « moi », « mon », « ma », « j'ai décidé de », et le pays et la République sont bien à lui. C'est en tout cas vraiment comme ça que Macron vit les choses. Et vous allez voir, le journaliste du New York Times dit bien que Macron termine la conversation en lui disant « si vous avez des questions sur la France, appelez-moi ». Sous-entendu, comme il est le président, et bon, plus ou moins le propriétaire exclusif du pays, il en est aussi le seul expert. Alors, Macron donc téléphone à ce journaliste, et là il chougne. Et il dit, alors ouvrez les guillemets, c'est un extrait de l'article, mais qui est un extrait de la conversation, « Et quand je vois dans ce contexte de nombreux journaux qui, je pense, viennent de pays qui partagent nos valeurs, qui écrivent dans un pays qui est l'enfant naturel des Lumières et de la Révolution française, » ça c'est l'Amérique, hein, qui est donc l'enfant de la France, et qui légitiment ces violences, qui disent que le cœur du problème, c'est que la France est raciste et islamophobe. Je dis, les fondamentaux sont perdus. Eh ben oui, mon pauvre bonhomme, la France est bel et bien raciste et islamophobe. Et oui, c'est au cœur du problème du terrorisme. À force d'humilier une partie non négligeable de la population du pays, c'est ce que disent un peu tous les articles en question, hein. À un moment ou à un autre, on finit par provoquer la violence. Et c'est ici le moment de rappeler que la grosse majorité des terroristes qui ont frappé en France depuis 2015 sont aussi des gens qui ont grandi en France, qui ont grandi, noirs ou arabes, dans les banlieues françaises. Et que ça, ça peut rendre dingue un sacré paquet de monde. Et c'est ça que les gouvernants français ne veulent jamais, jamais, jamais accepter de voir. Alors, je continue avec un extrait de l'article. Une partie de la couverture médiatique que déplore M. Macron reflète une véritable différence de valeur. Les Français lèvent les yeux au ciel devant le christianisme démonstratif des États-Unis et les sorties de M. Macron sur le voile ou les menus à l'école, tout comme les plaintes du ministre de l'Intérieur sur les rayons halal dans les supermarchés, se heurtent à l'importance qu'accordent les Américains à la tolérance religieuse et à la liberté d'expression américaine, cette fois, protégée par le premier amendement de leur constitution. Ah oui, la France tient à la liberté d'expression, à sa version de la liberté d'expression. Mais alors le mot tolérance, celui-là, on l'entend très très rarement ces dernières années. Nous, on l'a un peu oublié, il faut dire. Il faut que ça soit des ricains qui nous le rappellent. Encore un extrait. De telles distinctions idéologiques abstraites peuvent paraître éloignées de la vie quotidienne de nombreuses minorités ethniques en France qui se plaignent des abus de la police, de ségrégation résidentielle et de discrimination au travail. Et certains des reportages qui ont le plus offensé les Français reflétaient simplement l'opinion de Français noirs et musulmans qui ne voient pas le monde tel que les élites françaises le souhaitent. Alors vous voyez, cet article, c'est vrai que j'aurais envie de citer encore pas mal de passages. Juste pour montrer que ce qui ici est vu comme des sortes d'analyses monstrueusement islamo-gauchistes, mais en fait aux États-Unis, c'est un peu la base de ce qui peut s'écrire dans les médias, disons les médias qui sont pas complètement du côté de Trump. Et tiens, à propos de Trump, voici comment se termine cet article. Donc le journaliste du New York Times écrit « J'ai demandé à Macron si ses plaintes à l'encontre des médias américains n'étaient pas elles-mêmes un peu trumpiennes ». Des attaques hautement médiatisées au service d'un programme politique. Monsieur Macron a répondu qu'il veut simplement que lui et son pays, soient compris clairement. Et c'est donc là que Macron ajoute, toute honte bue, ouvrez les guillemets, mon message est le suivant, si vous avez des questions sur la France, appelez-moi.
Radio Canu.
Canu Info. Du mercredi.
Alors on l'a longuement ressassé ailleurs, ce second confinement ne ressemble pas du tout au premier en ce qui concerne les commerces. Pensant faire plaisir aux libraires, le gouvernement a interdit la vente de livres en grande surface, et puis finalement tous les produits non essentiels. Voilà pourquoi les mastodontes de la grande distribution, Carrefour, Auchan, Casino, Monoprix, nous annoncent qu'ils viennent de mettre 100 000 de leurs salariés en chômage partiel, faisant ainsi reposer sur l'État, qui ne se gênera sûrement pas pour se rembourser en diminuant les allocations chômage ou retraite, en faisant reposer donc sur l'État les salaires de ses employés. C'est ce que font déjà pas mal d'entreprises, mais on pouvait penser naïvement que la grande distribution en avait moins besoin et pourrait par exemple d'abord mettre au chômage partiel ses actionnaires. Ils prétextent évidemment la baisse de leur chiffre d'affaires depuis qu'ils doivent fermer les rayons de produits qui ne sont pas de première nécessité, rayons qui constituent entre 15 et 20% de leur activité. La logique voudrait donc que si vraiment chômage partiel il doit y avoir, cette mesure s'applique à 15 ou 20% des salariés. Or, chez Carrefour par exemple, le chômage partiel concerne 78 000 personnes, soit 82% des 95 000 salariés du groupe. Certes, Carrefour n'est pas la seule enseigne à recourir au chômage partiel, mais elle semble être la seule à placer 80% de ses salariés sous ce régime avantageux. Sans vouloir s'en prendre tout particulièrement à Carrefour, parce qu'il n'y en a pas un moins véreux que l'autre, mais c'est celui qui nous pourvoit le plus d'exemples, Carrefour donc affichait au premier semestre un bénéfice de 1,25 milliard d'euros, en hausse de 162 millions d'euros par rapport à 2019. On constate aisément que le premier confinement leur a été très bénéfique. Le groupe Carrefour fait partie de ces entreprises du CAC 40 que l'Observatoire des multinationales a récemment épinglé comme « Corona profiteur », cette enseigne profitant largement des aides publiques tout en continuant à verser de juteux dividendes à ses actionnaires, en l'occurrence 183 millions d'euros en 2020. Alors tout de même, les directions de Carrefour, comme celle de Casino, ont indiqué compléter les rémunérations de leurs salariés, c'est-à-dire verser l'intégralité des salaires, alors qu'en chômage partiel, l'État ne prend en charge qu'une partie. Ce n'est par contre pas le cas d'Auchan, où le message est pour le moment d'appliquer le minimum légal de 84% du salaire, c'est-à-dire le taux remboursé par l'État, qui est certainement bien suffisant pour faire vivre un salarié. Alors l'État ne reste pas silencieux face à cette attitude scandaleuse, attitude par ailleurs dénoncée par les salariés et les syndicats, mais l'État donc s'estime tout de même bien content en la personne d'Elisabeth Borne que, je cite, « les salariés soient en activité partielle plutôt que licenciés ». Et la ministre du Travail a donc répondu que le gouvernement vérifierait que toutes les demandes de chômage partiel sont bien justifiées. Quid des justifications sur le versement des dividendes aux actionnaires ?
Canu Info. Du mercredi.
Depuis sa cellule d'isolement, Kamel Daoudi, le plus vieil assigné à résidence de France, est condamné à un an de prison suite à un retard de 30 minutes de son couvre-feu, écrit des lettres, publiées sur le site lundi matin, pour raconter, décrire la prison. Après avoir raconté sa cellule et la promenade du quartier d'isolement, il raconte cette semaine le temps qui passe. C'est celle-là que j'ai décidé de vous lire. L'horloge. Un proverbe arabe affirme sentencieusement « Le temps étant comme un sabre, si tu ne le brises pas, il te brise ». La prison, et à l'intérieur de la prison, l'isolement est l'endroit par excellence où tu peux expérimenter cet adage et te convaincre ô combien il est cruellement vrai. À raison de 23 heures sur 24 en cellule, mesure sanitaire oblige, le temps doit être méticuleusement aménagé, rationné, apprivoisé, pour qu'il ne se retourne pas contre toi. Mais ce temps doit être utilisé à bon escient, et c'est là que réside toute la difficulté. Il est si facile de céder aux longues heures assassines en te réfugiant dans le sommeil, en te disant que non seulement qui dort dîne, mais qui dort s'évade aussi. Ce sommeil, hélas, n'est pas un bon allié. Il ne fait qu'accélérer la déperdition vers une déprime se muant en dépression et rendant ce temps encore plus coulant, plus flasque, plus gélatineux. Un autre chemin de traverse et de perdition incline à t'abreuver d'images télévisuelles, ne faisant qu'intensifier ta rage et ta frustration. Pour ma part, je m'emploie à briser méthodiquement le temps par la lecture, la réflexion et parfois l'écriture pour fourvoyer l'un de mes deux compagnons, la solitude, à défaut d'effacer mon ombre vagabondant pour mieux me rappeler mon existence. Dans ce désert à perte de vue, le soleil vient illuminer parfois le ciel de camailleux flamboyants et la pleine lune se cache derrière les nuages à l'orée de la nuit, telle une danseuse derrière un éventail ou un boa de crinoline. Cet astre et ce miroir nous rappellent alors que la caravane des jours, voguant vers notre liberté, passe inlassablement. Kamel Daoudi, Corba, le 5 novembre 2020.
Canu Info.
Dans une lettre ouverte, des migrants de Calais dénoncent le traitement et les violences qu'ils subissent de la part de la police. Lundi 16 novembre, ils décident d'adresser ce courrier au préfet du Pas-de-Calais et aux médias. Les CRS font de leur vie un enfer depuis pas mal de temps, mais la pression a encore augmenté depuis le début de ce deuxième confinement. À l'initiative de cette lettre, la communauté érythréenne du campement nommé BMX composée d'environ 150 personnes. Les faits rapportés sont délirants. Un migrant a été gravement blessé au visage par un tir de LBD. Ils évoquaient également les fois où les CRS les gazent juste comme ça, depuis leur fourgon quand ils les voient au bord de la route, ou bien dans leur tente, ou encore quand ils font mine de vouloir les écraser à grands coups d'accélération à bord de leur camion. Pour illustrer le climat que fait régner la police envers les migrants à Calais, pas plus tard que lundi, un policier a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour avoir frappé au visage un migrant à la terrasse d'un bar le 1er juillet en dehors de ses heures de service et alors qu'il était ivre. C'est dire l'envie d'en découdre de la part des flics sur place. L'ONG Human Rights Observers a transmis la lettre aux défenseurs des droits en précisant que les migrants leur relatent tout le temps ce genre de faits et que depuis 2 semaines ils sont tabous. Un des nombreux événements déclencheurs est la journée du 11 novembre où une personne a été blessée au visage par un tir de LBD et est actuellement toujours hospitalisée. La préfecture se défend en disant que ce jour-là, les CRS intervenaient suite à une bagarre entre migrants qui avaient fait un blessé et qu'eux aussi, de leur côté, il y avait 4 blessés. Bon, même si aucun n'est à l'hôpital. Si à Calais la situation est particulièrement tendue, il serait faux d'imaginer que les violences à l'égard des migrants se cantonnent à cette ville. Hier, Darmanin et le préfet l'Allemand ont décidé d'évacuer l'un des plus grands campements de France abritant 2000 personnes. Si l'expulsion a été assez relayée dans les médias, les violences qui l'entourent un peu moins. Avec un déploiement policier impressionnant, la communication qui accompagne cette expulsion est hallucinante. Compte Twitter de Darmanin. Sur mon instruction, la préfecture de police procède ce matin à l'évacuation d'un campement illicite de 2000 personnes vivant dans des conditions sanitaires déplorables à Saint-Denis. Merci aux forces de l'ordre mobilisées et aux agents de la préfecture Île-de-France qui assurent leur mise à l'abri. Préfecture de Seine-Saint-Denis, début de l'opération de démantèlement d'un campement à Saint-Denis avec préfecture de police et préfet 75. Les occupants sont mis à l'abri pour garantir la sécurité et la salubrité de tous, notamment face à la Covid-19. Préfecture de police. Le préfet de police s'est rendu ce matin à Saint-Denis auprès des policiers, gendarmes et agents de l'État et associations engagées dans l'évacuation et la mise à l'abri des occupants du campement. Sauf que derrière cette annonce mensongère, on a du mal à imaginer le duo Darmanin et l'Allemand se soucier du sort des personnes qu'elles expulsent à coups de matraque, cette expulsion s'est faite sous un nuage de gaz lacrymogène. Selon les associations présentes sur place, entre 500 et 1000 personnes n'ont pas pu monter dans les bus pour pouvoir ensuite être pris en charge dans des hébergements d'urgence. On parle ici de gymnase et pas de foyer pérenne. Alors, en plus de se rendre coupable d'une énième expulsion, certaines personnes vivant sur ce camp avaient déjà subi plusieurs expulsions avant celle-ci, en plus d'être incapables de proposer une solution pourrie à 2000 personnes répertoriées, le préfet et son ministre n'ont rien trouvé de mieux que d'envoyer sa police et sa gendarmerie pour presser les personnes qui venaient de se retrouver sans solution au petit matin, de leur coller au train alors qu'ils s'en vont d'eux-mêmes, mais visiblement pas assez vite au coup de la marée chaussée qui décide de leur envoyer de la lacrymo dessus. D'après les témoignages présents sur place, c'était le chaos. Les flics passaient leur temps à hurler des sommations, les personnes évacuées sont conduites dans une impasse, puis chargées et gazées. Sur les vidéos, on voit des personnes avec leurs affaires qu'ils ont réussi à récupérer courir pour éviter de se retrouver au niveau de la ligne de gendarmes qui avance au pas de course. Des centaines de personnes qui attendaient vers le campement, attendant depuis le début le fameux bus pour pouvoir monter dedans et être mis à l'abri, à la place de ça, ils se sont fait gazer et charger. Alors non, il ne s'agit pas d'une mise à l'abri et d'un démantèlement, mais bien d'une expulsion brutale et violente, qui ne protège pas les personnes, mais qui les pousse vers encore plus de précarité, pauvreté et de violence.
Radio Canu. Canu Info. Du mercredi.
Lundi 16 novembre, le service statistique du ministère de l'Intérieur annonçait que les services de police et de gendarmerie ont enregistré une hausse de 16% des violences conjugales, qui ont donc concerné 142 310 personnes, tous sexes confondus, en 2019. Environ 88% des victimes de violences conjugales sont des femmes, soit 125 840, une proportion assez stable par rapport à 2018 selon ces chiffres du ministère qui ne comptabilisent pas les homicides.
Un chiffre évidemment bien en dessous de la réalité des violences conjugales qui ne se manifestent pas toujours par une plainte. Concernant les homicides, en 2019, 146 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-compagnon, soit 25 de plus que l'année précédente, selon les derniers chiffres officiels qui datent du mois d'août. C'est important de considérer que depuis 2006, l'année 2018 était l'année avec la moins d'homicides contre des femmes, que donc la tendance générale est tout de même en baisse. En tout cas, ce sont toujours trop de mortes et de personnes victimes de violences, c'est pourquoi plusieurs collectifs appellent à la mobilisation ce 25 novembre un peu partout en France, y compris à Lyon, à travers cet appel du collectif Droits des femmes. Nous sommes des millions de femmes à avoir subi et à subir encore des violences sexistes et sexuelles qui nous pourrissent la vie. Nous sommes des millions à avoir été victimes et à avoir vu ces violences abîmer nos amis, nos sœurs, nos voisines, nos amoureuses, nos mères, nos enfants ou nos collègues. Ces violences ne sont pas un hasard, elles sont issues du patriarcat qui est un système inégalitaire fondé sur un rapport de domination des hommes sur les femmes. Elles connaissent de nombreuses et diverses manifestations allant du sexisme quotidien aux violences conjugales, des violences psychologiques au harcèlement sexuel, du viol aux violences gynécologiques et obstétricales, des atteintes au droit à l'IVG et aux stérilisations forcées. Ces violences visent les femmes et les minorités de genre. Elles touchent aussi les enfants, co-victimes des violences conjugales ou victimes de violences sexuelles. Ces violences s'imbriquent et se cumulent pour certaines en raison de leur situation de handicap, de vulnérabilité, de leur âge, de leur origine sociale, de leur statut de migrante, parce qu'elles sont lesbiennes ou bisexuelles, parce qu'elles sont trans, parce qu'elles sont autistes ou parce qu'elles sont racisées. Pour le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, nous dénonçons l'ensemble de ces violences. Rassemblement le samedi 21 novembre, place Bellecour, à 15h, avec le happening des femmes en blanc de l'association Filaction. Rassemblement le mercredi 25 novembre à 18h, devant le McDonald's de Charpennes, pour dénoncer le harcèlement sexuel et le sexisme au travail, et pour inciter le gouvernement à ratifier la Convention 190, de l'Organisation internationale du travail permettant de protéger toutes les femmes du monde contre les violences sexistes et sexuelles sur leur lieu de travail. Ces rassemblements se dérouleront dans le respect des gestes barrières, venez masqués et avec du violet. Voilà, le collectif Droits des femmes précise aussi que les deux rassemblements sont autorisés par la préfecture et le collectif a fait des attestations dérogatoires pour se rendre au rassemblement en plus de l'attestation officielle de déplacement. Elle sera disponible sur le Facebook du collectif Droits des Femmes et puis sur Rebellion.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
La plus rebelle des radios.